Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole qui est, comme André l'a décrit, comme un ruisseau qui nous rafraîchit. Et nous te demandons que ce matin, par ces températures aussi, Seigneur, nous soyons aussi rafraîchis spirituellement. Nous avons besoin de toi et que ton Esprit Saint touche chacun d'entre nous et que, oui, la puissance de Dieu travaille dans nos cœurs. Éclaire-nous et que toutes les pensées qui ne sont pas de toi soient bannies maintenant de nos cœurs et que nous soyons à tes pieds. Amen. Ce matin, je vous propose de prendre un passage dans le prophète Ézéchiel. Et donc, Ézéchiel, un grand prophète en Israël. Alors, c'est quoi un prophète ? J'ai regardé dans le dictionnaire, hein, parce que bon, des prophètes, on entend parler. C'est une personne qui proclame la parole divine, qui annonce les desseins divins et leurs manifestations futures. Ça, c'est une explication de ce qu'est un prophète. Prophétiser, c'est prédire l'avenir par inspiration divine. Et vous savez, la première mention de prophète dans la Bible, c'est qui a été mentionné comme prophète ? Je ne vais pas vous laisser patienter longtemps. Dans Genèse 20, Abraham, voilà. Dans Genèse 20, vous pourrez relire ça chez vous, les versets 1 à 7, Abraham avec sa femme Sarah, sont à Guérar et ils sont chez Abimélec. Je crois qu'il y a une famine. Et donc, ils vont là et il fait passer Sarah pour sa sœur. Et voilà que le roi Abimélec va prendre pour femme Sarah parce qu'elle est très belle. Il a dit que c'est sa sœur, donc lui, il ne pensait pas faire de mal. Et finalement, Dieu l'interpelle et dit, attends, c'est la femme d'Abraham. Et je résume juste, et il lui dit à Abimélec, Dieu lui dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prier pour toi et tu vivras. Parce qu'il était en danger de mort pour avoir voulu prendre sa femme. Il priera pour toi. Une des missions du prophète, c'est de prier. Ce n'est pas juste d'annoncer des choses. Alors nous allons lire dans Ézéchiel 37. André nous a parlé de restauration, de restaurer. Ézéchiel 37, 1 à 15. Noémie nous a parlé de situation presque de désespoir au Liban. 1 à 15, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer entre eux, auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais sur l'ordre que j'avais reçu. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ézéchiel a une vision, et quelle vision, n'est-ce pas ? Dieu, par son esprit, le dépose dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, beaucoup d'ossements, et répandu pêle-mêle sur le terrain, et complètement sec. C'est une vision de désespoir pour le prophète. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus qu'une vision pareille ? Il n'y a aucun espoir. C'est vraiment fini. Certainement, s'il n'avait pas été inspiré par le Seigneur, il n'aurait pas pris cette image en tant que visionnaire. Parfois, on a ses propres convictions, comment on doit apporter quelque chose. Et donc, j'imagine qu'il n'aurait pas pris ça pour parler. Un corps sans vie est déjà choquant. Ceux qui ont vu un mort, ce n'est en général pas très gai, n'est-ce pas ? Cela nous rappelle notre propre condition aussi. Tout est fini pour celui-là. Un squelette, le temps a déjà fait son œuvre. Celui qui était cette personne n'est même plus reconnaissable, quand on trouve un squelette parfois. Alors un éparpillement d'os au milieu de personnes et des os complètement blanchis, il n'y a vraiment plus d'avenir possible. Le prophète se retrouve dans un endroit inhospitalier. Il n'y a que mort. Un lieu qui inspire vraiment le désespoir. Aucun avenir. Et voilà que l'Éternel lui demande, ses os pourront-ils revivre ? Cette question est un énorme défi, n'est-ce pas ? Ses os pourront-ils revivre ? Toi, Ézéchiel ne cherche pas une réponse théologique qui plairait à Dieu. Voilà, on va essayer de se dépatouiller pour une réponse. Il dit, toi Seigneur éternel, toi tu le sais. Il n'est que serviteur, Ézéchiel. Et voilà qu'il est engagé lui-même pour réaliser le plan de révélation de Dieu. Il dit, toi, prophétise, ce n'est pas seulement spectateur, n'est-ce pas ? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Est-ce qu'ils avaient encore des oreilles ? Écoutez la parole de Dieu, en parler comme ça à des eaux. Il doit parler à des eaux. La mort a fait son œuvre. Au nom du Seigneur, il doit annoncer une restauration, une reconstruction, une résurrection. Humainement, c'est fou. Chaque corps, en tout cas quand j'étais jeune, en science, on nous a appris, il y avait 208 os sur un squelette. Peut-être aujourd'hui, il y en a plus, je ne sais pas. Il y en a qui disent, les gens aujourd'hui devraient avoir encore une cheminée sur la tête pour ceux qui fument. Quel puzzle ! Un éparpillement d'os. Le prophète suit les directives de Dieu, un bruissement, un mouvement, les eaux se rapprochent les uns des autres. Là, Ézéchiel devient spectateur, c'est lui qui voit ça, ça bouge de partout. Qu'est-ce que ça va donner ? Les eaux se rapprochent les uns des autres, c'est spectaculaire. Il est parlé ici pour lier les eaux. Il y a des nerfs qui sont installés, c'est plutôt des tendons. J'ai regardé dans la Bible allemande, il est dit « Sehnen », c'est les tendons qui relient les os. les nerfs sont plutôt les trucs sensibles. Voilà, mais je tiens à préciser. De la chair et pour finir de la peau, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Tout-Puissant qui, au milieu de milliers d'eau, là, de dizaines de milliers d'eau, il recrée un homme. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, dit le verset 8. Et Ézéchiel est à nouveau associé à l'action de Dieu. Prophétise et parle à l'esprit. Le ministère du prophète ici, c'est la prière. Comme il a été demandé à Abraham, prie pour Abimélech. Il priera pour toi et tu vivras. Ici, il y a plein de corps qui sont au sol, reconstruits, mais pour l'instant, ils sont morts. Il priera et tu vivras. Le prophète est impliqué. Au nom de l'Éternel, il invoque l'esprit de vie. Viens des quatre vents, souffle sur ces eaux morts et qu'ils revivent, dit le prophète. Dans le Nouveau Testament, il est dit, l'esprit souffle où il veut. Et ici, le prophète doit ordonner à l'esprit de Dieu de venir des quatre vents, parce que l'esprit de Dieu, il est partout. Pour cette tâche, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Restaurée, vivifiée, remise sur pied. Et tout de suite, il a dit, c'est une armée. Ce n'est pas des spectateurs, ce n'est pas juste un groupe qui est bien ensemble. Ils sont cités comme l'armée de Dieu. Le prophète doit parler de la part du Seigneur, parler à ses eaux, annoncer la vie, le retour à Dieu, parler à l'Esprit, prier pour que l'Esprit du Seigneur ramène les morts à la vie. N'est-ce pas là notre mission ? La vision s'arrête pour Ézéchiel, et maintenant c'est le temps de la révélation et l'explication. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le peuple choisi, aimé, entouré par le Seigneur, s'est détourné de son Dieu. C'est toute l'histoire depuis l'entrée en Canaan jusqu'à ce jour. Ils ont imité les nations alentour dans des pratiques occultes et païennes. À ce moment, ils vivent déportés quand Ézéchiel intervient. Ils sont déportés loin de leur pays, loin de la terre promise. Et là, ils rentrent en eux-mêmes avec ce constat amer. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Parce que pour eux, être autour de Jérusalem, être en terre sainte, même aujourd'hui pour les Juifs, on entend ça même des témoignages, ils préfèrent être actuellement en Israël où il y a la guerre que parmi nous. Parce que pour eux, Israël, Jérusalem, c'est là où Dieu les rencontre. Dis-leur, Ézéchiel, prophétise. Ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. « Ô mon peuple !» Deux fois, il y a cette affirmation de Dieu, « Ô mon peuple !» Quand on dit de quelqu'un, « Ô mon ami !» Ce n'est pas pour le dénigrer, ce n'est pas pour le rejeter. C'est un signe d'amour. Et Dieu qui dit, « Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, il agit aussi en conséquence. Les promesses se réalisent. Oui, Dieu a parlé et agi. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 27, les versets 51 à 53, il nous est dit, au moment où Jésus a rendu l'âme, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les roches se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaient. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La vraie restauration vient uniquement par le sacrifice et la résurrection de Jésus. Mais là, concrètement, dans le récit de Pâques, il est dit qu'il y a des sépulcres qui sont ouverts quand Jésus a accompli son sacrifice. C'est une réalisation de cette vision qu'avait Ézéchiel. Alors, laissons un peu Israël et venons-en à notre monde contemporain. Quelle vision avons-nous ? Avons-nous une vision juste de notre monde contemporain ? On pourrait faire un beau tableau, il n'est pas très reluisant. C'est la course effrénée vers le chaos actuellement. Les excès de tout genre, Dieu n'est pas consulté. Celui qui parle le plus fort entraîne les autres. Et c'est les envies de chacun qui priment sur les règles de vie que Dieu nous a données pour être bénis et vivre de sa grâce. La vallée des ossements, n'est-ce pas l'image de notre humanité ? Qui demande encore à Dieu ? Chaque racheté, tous ceux qui se réclament du Seigneur, doit avoir une vision juste du monde dans lequel il vit. Nous ne sommes pas uniquement appelés à gémir sur le déclin inexorable de notre civilisation. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir, ô mon peuple, je vous ramènerai à moi. C'est toujours encore le plan de Dieu pour nos contemporains aussi. Et un rappel dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, 2, pardon, les versets 1 à 5. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quelqu'un a déjà cité tout à l'heure le fait que nous devons prier pour nos autorités, mais pas seulement pour les autorités, pour tous les hommes, parce que c'est la volonté de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Ça ne sert à rien de critiquer, de gémir. Nous sommes encore des prophètes chacun et nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Annoncer le salut, prier pour nos contemporains dans nos villages. Selon la Bible, ils sont morts comme nous étions morts avant de recevoir Christ. Notre jugement, voire notre mépris, ne les force pas à sortir de leur sépulcre. Le salut par la croix, l'annonce de la bonne nouvelle, l'amour de Christ en nous et par nous, notre intercession, voilà les moyens que Dieu nous a donnés pour conduire de la mort à la vie. Tout le reste, nous pouvons participer à la litanie du monde. Nous avons à annoncer et intercéder. Ézéchiel a constaté beaucoup d'os complètement secs. Ézéchiel a parlé, haussement desséché, écoutez la parole de Dieu. » Ézéchiel a prié pour que l'Esprit fasse revenir la vie. « Viens, Esprit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Est-ce l'aspiration de notre âme pour nos contemporains? Ce passage est aussi un énorme encouragement pour chacun de nous, dans nos situations personnelles, pas seulement dans notre monde. Ces eaux disséminées ne sont-ils pas symboles de nos relations brisées, des liens coupés, des vies chaotiques? Humainement, combien de causes perdues, de désespoir? À l'image de Jacob dans l'Ancien Testament, en Genèse 28, vous pourrez le relire, lui, il a essayé de mener sa vie à son avantage. Il a piqué la bénédiction paternelle à son frangin. Il a dû s'enfuir car le frère l'aisé voulait le tuer. Le frère a dit, « Mon père est vieux, dès qu'il est mort, je lui règle son compte. » Il doit s'enfuir et par sa fuite, il a divisé sa famille. Ils ne sont plus ensemble. À Bethel, sur le chemin, Dieu lui a montré qu'il n'avait pas besoin de subterfuge pour être béni. Sa destinée reposait en sécurité dans les mains de celui qui ne l'abandonnerait jamais. Vous savez, au bas de l'échelle, il était en bas de l'échelle et Dieu lui a parlé d'en haut et lui a expliqué que de toute façon, il était béni. Il n'avait pas besoin de se dépatouiller lui-même pour arriver à quelque chose. Le Seigneur Tout-Puissant veut encore restaurer et rétablir. Rappelons-nous, il est fidèle. Quand l'horizon ne veut pas s'éclaircir, lui, il voit plus loin. Crois au Seigneur Jésus et toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Actes 16, 31, c'est ce geôlier qui a demandé à Paul et à Silas, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Il a dit, « Crois au Seigneur et toi, avec la promesse, tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est parfois dur à vivre tous les jours quand rien n'avance. Mais il y a cette promesse. Nous sommes porteurs, parfois silencieux, de la bonne nouvelle. Parfois, nous ne pouvons pas parler dans certains de nos cercles. Mais nous sommes intercesseurs par des supplications et des actions de grâce. Et l'Esprit Saint veut nous exaucer. Quand le Seigneur donne la vie nouvelle, l'ex-mort, celui qui était mort, est relevé, il se tient sur ses pieds. Et quel qu'il soit, il fait partie de l'armée de Dieu. André l'a lu au verset 6, non, je ne sais plus, dans le psaume 23, il dit, « Il restaure mon âme. » Et le Seigneur est le grand restaurateur. Amen. Prions encore. Père, par cette vision, nous voyons ta toute-puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que tu associes les hommes à ce ministère. Et nous voulons te dire que nous avons besoin que tu changes aussi nos visions, Seigneur, sur nos contemporains, pour que dans nos villages, dans nos cercles d'amis, Seigneur, nous ayons toujours à cœur d'apporter cette bonne nouvelle de vie, de résurrection. Seigneur, le tableau n'est pas reluisant, mais ta grâce est toute puissante. Et la vie par le Saint-Esprit est inarrêtable quand tu te mets à l'œuvre et nous te demandons, nous intercédons, Seigneur, et tu veux faire de plus en plus de nous des intercesseurs pour nos contemporains, pour ceux qui sont près et ceux qui sont plus loin de nous. Donne-nous vraiment une vision de ton amour pour les eaux desséchées, Seigneur. Amen.